des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de François Rosset, professeur de littérature française à l'Université de Lausanne en Suisse. Nous allons évoquer un lieu et un personnage qui ont beaucoup compté dans l'histoire de France et de l'Europe du 19e siècle. Ce lieu, c'est Copé. Ce personnage, c'est une dame du nom de Germaine de Staël. Monsieur Rosset, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous tout d'abord nous parler de Copé? Où se trouve Copé?
Copé se trouve au bord du lac Léman, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Genève, aux confins du canton de Vaud, donc ça n'est pas administrativement la même entité que Genève. Mais ces précisions sont quand même très importantes parce que c'est un lieu qui, au temps qu'il a rendu célèbre et dont nous allons sans doute parler tout à l'heure, c'est un lieu qui avait des caractéristiques, disons, géoculturelles tout à fait particulières. Parce que le canton de Vaud, à cette époque, est encore sous l'administration d'un occupant, qu'on va mettre entre guillemets, un occupant interne à la Suisse, qui est le canton de Berne. C'est un canton réformé, mais entre Copé et Genève, où il n'y a, comme je viens de le dire, que 15 kilomètres, il y a encore la petite enclave de Versoix, qui à l'époque est encore sous administration française. Donc pour aller de Copé à la Rome protestante Genève, il faut traverser un bout de territoire sous administration, disons, catholique. Tout près de Copé, dans le pays de Gex, il y a le château que vient de quitter Voltaire. Quand on regarde de l'autre côté du lac, qui est particulièrement étroit à cet endroit, eh bien, on a en face de soi des terres qui appartiennent au duché de Piémont-Sardaigne, qui sont donc elles aussi catholiques. Mais si vous prenez par ailleurs, les modalités d'organisation politique administrative de chacune de ces entités, vous voyez que Copé, c'est un lieu qui, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, se trouve entouré d'espaces qui fonctionnent selon des principes différents. Au fond, tous les voisins obéissent à d'autres cultes, ont d'autres maîtres, qui eux-mêmes fonctionnent dans des circonstances un peu, ou dans des cadres plutôt différents. Et c'est donc un lieu tout à fait privilégié pour y penser ce qui sera pensé peut-être le plus profondément et qui est justement la question des différences et des rapports entre les individus et les communautés qui sont marqués par ces différences.
Donc un lieu stratégique du point de vue idéologique.
Voilà, c'est un lieu en plus qui géographiquement se trouve aussi à un lieu de passage entre l'axe nord-sud. C'est aussi un lieu de rencontre entre la latinité et la germanité. Et tous ces éléments font que c'était un lieu qui était particulièrement favorable pour tout ce qui va s'y passer.
Alors pourquoi Copé? C'est vrai, bon, vous venez de rappeler la dimension stratégique du lieu. Mais alors pourquoi on se rend à Copé? Pourquoi tous les intellectuels du début du XIXe siècle se rendent à Copé? Et là, nous en venons tout naturellement à Madame de Staël. Qui est Madame de Staël? Pourquoi se retrouve-t-elle à Copé?
Voilà, il faut commencer par dire que c'est son père, Jacques Necker, qui, après avoir quitté son premier mandat de ministre en 1782, achète deux ans plus tard, donc en 1784, la baronnie de Copé, avec un très beau château construit au XVIIe siècle, et s'y installe comme on s'installe à cette époque dans des châteaux, c'est-à-dire pour y passer la belle saison, tout en ayant, bien sûr, des logements en ville, en l'occurrence à Lausanne d'abord, puis ensuite à Genève. Donc cette circonstance, elle est évidemment très importante, et quand Necker achète ce château, il ne pense pas une minute qu'il va s'y passer tout ce qui s'y passera une quinzaine d'années plus tard. Et donc la fille de Jacques Necker, Germaine de Staël, va d'abord passer certaines belles saisons avec ses parents à Copé, mais pas du tout toutes les années. Elle a sa vie très, très active, même trépidante à Paris, mais elle circule beaucoup jusqu'au moment où ses rapports avec Bonaparte vont devenir de plus en plus mauvais, jusqu'à ce que celui-ci la condamne a quitté le territoire de France. Et c'est donc par obligation qu'elle va s'installer beaucoup plus durablement dans le château de Coppet.
Donc elle voyage beaucoup pour le plaisir au départ et puis elle y retourne forcée au final.
Oui, elle y retourne. Beaucoup de gens qui parlent du groupe de Coppet utilisent cette expression qui me semble extrêmement juste, à savoir que Coppet est un lieu de choix, mais ça n'est pas un lieu d'élection. C'est-à-dire qu'on est à Coppet parce qu'on possède ce château, parce qu'on y est attaché d'une certaine façon, mais on est à Coppet parce qu'on ne peut pas aller là où on souhaiterait être, c'est-à-dire à Paris.
Comment s'est-elle retrouvée à Coppet ? Pourquoi alors a-t-elle été exilée ? Que s'est-il passé ?
Bien, il s'est passé que, pour toutes sortes de raisons qui sont très, très compliquées, parce qu'il y a des raisons à la fois financières, politiques, mais surtout idéologiques, pour toutes sortes de raisons, l'antipathie de Bonaparte à son égard, antipathie qui est devenue d'ailleurs tout à fait réciproque, n'a cessé d'augmenter.
Et pourtant, au départ, elle aimait bien Bonaparte.
Au départ, évidemment, comme tout le monde, elle a cru à la possibilité de pouvoir sortir enfin de ce marasme post-révolutionnaire grâce à l'énergie et au talent de cet individu tout à fait hors du commun. Évidemment, elle a même écrit des vers à sa gloire, mais néanmoins, dès le coup d'État du 18 Brumaire, bon, d'abord Constant et puis très vite Germaine de Staël, vont se rendre compte de toutes les dérives non seulement potentielles mais annoncées du pouvoir en question. Et ce qui va insupporter le premier consul, d'abord l'empereur ensuite, c'est le fait que Germaine de Staël n'a jamais cherché à le courtiser. Il aurait voulu la soumettre comme il l'a fait avec cette cour d'un nouveau style qu'il a constituée autour de lui. Et puis, elle avait aussi un autre défaut tout à fait rédhibitoire, c'est qu'elle prenait la parole sur des questions politiques, elle prenait la parole sur des questions philosophiques, elle se prononçait sur l'état de l'Europe, alors que, d'une part, elle n'avait pas les mêmes opinions que Bonaparte, et d'autre part, ce qui était peut-être encore plus grave, c'était une femme.
Alors elle prenait de la place, beaucoup de place, beaucoup d'idées. Elle était le point de ralliement, inspiratrice et non chef. Elle tient la liberté de penser. Elle aime la tolérance. Elle a une grande ouverture d'esprit. Elle voyage, ce qui n'est pas l'habitude de tout le monde de voyager à l'époque. Ce n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Elle s'entoure d'amis très divers, peut-être trop divers. Elle est la seule femme qui assurait d'un tel rôle, tout en remplissant elle-même ses tâches d'écrivain, parce qu'elle est écrivaine avant tout. Elle travaillait beaucoup. Comment rassemblait-elle des personnes aussi différentes ?
Tous les témoins, tous les contemporains qui l'ont rencontrée et qui ont rendu témoignage de ces rencontres soulignent toute une série de qualités qui lui permettaient, partout où elle se trouvait, de réunir immédiatement autour d'elle des personnalités d'opinions, de courants, d'instructions extrêmement diverses. Et ces qualités, eh bien, bon, on pourrait les résumer avec des termes un petit peu vagues, comme l'entre-genre, comme la très grande capacité à, on dirait aujourd'hui, à communiquer. Elle avait une très grande verve dans la conversation. Elle avait un talent extraordinaire de faire rebondir la conversation, de la prolonger, de mettre en valeur ses interlocuteurs aussi, ce qui était assez rare pour quelqu'un d'aussi brillant. Et toutes ces qualités faisaient qu'elle a donné à la grande tradition de la conversation à la française un tour, peut-être pas radicalement nouveau, mais quand même sensiblement nouveau, et en bonne partie évidemment inspiré par les circonstances politiques de ce temps.
Donc, à Coppet, comment décide-t-elle de rassembler des personnalités ? D'où lui vient l'idée ? Est-ce que vous pouvez nous parler des débuts du groupe de Coppet ?
Alors, ce qui est important de souligner, c'est que très probablement, elle n'a jamais décidé de réunir des personnes autour d'elle. Et ça nous permet peut-être de préciser une chose très très importante, elle aussi, c'est que le groupe de Coppet, pour Germaine de Staël et ses amis, n'a probablement jamais existé. Il faut dire que l'appellation même du groupe de Coppet, qu'on commence à trouver chez certains voyageurs de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui se rendent à Coppet comme on se rend à Ferney pour célébrer les grands lieux de la sociabilité intellectuelle du passé. Il y a quelques voyageurs qui commencent à parler de groupes de Coppet, mais comme on parle de façon très neutre d'un groupe, on n'y met pas, si je puis dire, un G majuscule. Et puis c'est finalement seulement dans les années 1930 qu'un premier ouvrage très important apparu sous la plume d'un chercheur italien qui s'appelait Carlo Pellegrini, et qui a écrit en italien une étude monographique qu'il a intitulée « Le groupe de Coppet ». Et au fond, on peut dire que cette expression qui circulait déjà sous la plume de différentes personnes depuis au moins un demi-siècle, même un peu plus, a trouvé là vraiment son estampille, disons, intellectuelle et même académique. Et c'est à partir de là que, de façon... beaucoup plus systématique, on a pu parler de groupe. Mais c'est très important de savoir que ça n'était pas du tout un groupe comme il y avait tant à l'époque de réunions organisées, des sociétés savantes, des clubs politiques ou d'autres. On n'a jamais tenu de registre des membres du groupe. Il n'y avait naturellement ni cotisation ni procès-verbaux. Si bien que ce groupe est un phénomène que l'on a pu... peut-être cerné et désigné a posteriori avec les critères qui sont ceux d'un monde qui avait beaucoup changé et donc il me paraît tout à fait évident que ni Germaine de Staël ni ses amis ne revendiquaient la participation à un groupe et encore moins l'animation ou la fondation d'un groupe. Et ça me paraît vraiment essentiel. Cela dit, il est très intéressant de voir que quand Germaine de Staël disparaît, le 14 juillet évidemment, le 14 juillet, figurez-vous, 1817, quand elle disparaît, les témoignages de ses amis sont très impressionnants parce qu'au fond on a l'impression, en lisant les lettres que s'écrivent Sismondi, Benjamin Constant, Charles-Victor de Bonstetten et d'autres, on a l'impression dans ces correspondances de cerner le moment où ces gens se sont rendus compte qu'ils avaient co-animé avec celle qui en était le phare, le groupe de Coppet.
Qui sont les membres du groupe de Coppet ?
Alors là encore, c'est
parmi
très...
Parmi les personnalités les plus connues.
C'est très, non mais c'est une question qui mérite d'être traitée peut-être pas avec des noms, en tout cas dans un premier temps, parce qu'il faut aussi bien montrer que ce groupe n'a pas, mettons des guillemets une fois pour toutes à ce groupe n'a pas fonctionné seulement à Coppet et seulement par la rencontre d'individus autour de Germaine de Staël dans le château de Coppet. Ce qu'on appelle le groupe de Coppet, c'est une constellation très mouvante de personnalités qui sont en contact avec le noyau de ce groupe, j'y reviendrai tout à l'heure, de toutes sortes de manières. Soit parce qu'ils sont de passage à Coppet, soit parce qu'ils rencontrent Germaine de Staël ou d'autres de ses amis lors de certains voyages. Donc là, on peut dire que le groupe de Coppet se trouve parfois à Vienne, parfois à Berlin, parfois à Milan, parfois à Rome. Donc il y a des rencontres qui peuvent être tout à fait accidentelles, d'autres qui peuvent être régulières. Mais il y a aussi une modalité de fonctionnement du groupe de Coppet qui est très très importante et qui prend beaucoup de poids, c'est la correspondance. Et là, évidemment, que le groupe ne fait que de prolonger la vie de la sociabilité intellectuelle de la bonne vieille République des Lettres, où on sait bien que depuis la Renaissance, les contacts entre les grands savants de l'Europe étaient extrêmement vifs, même si les rencontres immédiates étaient très rares. Et avec le groupe de Coppet, on doit tenir compte aussi de cette participation indirecte de certains individus. Si bien que, je reviens quand même à votre question, qui étaient les membres du groupe de Coppet, si on tient compte de tous ces paramètres de fonctionnement du groupe, alors évidemment qu'on peut établir une liste extrêmement longue qui peut aller, disons, jusqu'à la centaine de personnes. Maintenant, si on parle du noyau du groupe, alors là, il faut peut-être raisonner quand même en termes de chronologie. Parce que on peut dire que ce groupe a commencé à fonctionner au milieu des années 1790, immédiatement après la première rencontre de Germaine de Staël et de Benjamin Constant. À ce moment-là, le groupe, entre guillemets toujours, fonctionne dans le salon de Germaine de Staël, ici à Paris, à la rue du Bac. Ensuite, quand Constant sera évincé du tribunat d'abord, et puis ensuite Germaine de Staël condamnée à l'exil, alors tous ces gens-là vont se déplacer à Coppet, et c'est là que les grandes heures du groupe de Coppet à Coppet vont durer, disons, grosso modo, de 1802 à 1812, date à laquelle Germaine de Staël va quitter Coppet pour s'enfuir en Angleterre dans un périple très, très agité sur lequel on pourra revenir. Mais ce que je voulais surtout indiquer en évoquant ces dates, c'est qu'il y a en somme trois générations du groupe de Coppet. Et dans la première génération, on va pouvoir situer évidemment les parents de Germaine de Staël, Jacques Necker et sa femme Suzanne. Jacques Necker, évidemment, personnalité extrêmement importante du monde politique européen, mais aussi propriétaire d'une des plus grandes fortunes privées sur notre continent à cette époque, ce qui est un élément aussi assez important. Suzanne Necker, née Curchaud, est la fille d'un pasteur du canton de Vaud, qu'on appelait Pays de Vaud à l'époque. Elle a aussi été l'épouse totalement dévouée de son mari Jacques Necker, et c'est elle qui, pour une bonne part, a contribué à construire cette carrière phénoménale d'un étranger protestant bourgeois à la cour de France. Et elle a aussi, elle s'est distinguée dès le milieu des années 1760 par le salon qu'elle tenait à Paris et qui était un des salons les plus importants.
Aurait-elle donné une idée à
Alors évidemment, c'est pour ça que j'en parle, n'est-ce pas? C'est que cette première génération, elle est très importante. Pas parce qu'elle aurait participé, si je puis dire, au groupe de Coppet, mais parce que ce groupe ne vient pas de nulle part. Et donc il vient notamment aussi de toute cette grande culture héritée par Germaine de Staël de ses parents. On sait très bien que comme enfant, elle entendait tous les plus grands noms des Lumières qui fréquentaient le salon de ses parents. Elle les avait rencontrés, elle les avait vus, elle les avait entendus. Bref, il y a là une évidente continuité. Alors parmi les membres très importants du groupe qui appartient à cette même génération, il y a Charles-Victor de Bonstetten, qui est un intellectuel et magistrat bernois, qui va vivre très 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 longtemps et qui va en somme couvrir les trois générations du groupe. Mais sur le plan des dates, eh bien, il est un contemporain plutôt des parents de Germaine de Staël. Puis ensuite, alors, il y a la grande génération du groupe lui-même, avec Germaine de Staël, avec Benjamin Constant, avec les deux frères Schlegel, qui sont très très importants. L'un d'eux est le précepteur des enfants de Germaine de Staël, et l'autre est en contact plutôt indirect par la correspondance avec Coppet. Et puis citons encore un personnage extrêmement important dans l'histoire de la pensée historiographique et surtout économique, qui est Sismondi. Ça, ce sont les personnages phares du groupe. On pourrait en citer encore évidemment beaucoup, beaucoup d'autres. Et puis, il y a aussi des amis, de grandes personnalités, mais aussi des personnalités plus discrètes, intellectuellement plus discrètes, mais peut-être symboliquement très importantes, comme Juliette Récamier, qui va passer plusieurs étés à Coppet, ou encore Albertine Necker de Saussure, une cousine de Germaine de Staël, qui est une personnalité très, très discrète, mais très, très intéressante, très importante, et qui va livrer d'ailleurs le premier essai biographique de Germaine de Staël, absolument brillant, qui va paraître en préface aux œuvres complètes, à la première édition des œuvres complètes. Puis alors après, il faudrait parler de la troisième génération, bien après la mort de Germaine de Staël, avec d'abord Auguste, son fils, et puis Prosper de Barante et encore beaucoup d'autres qui se sont reconnus héritiers de ce groupe, mais héritiers non pas purement intellectuellement, mais parce qu'ils avaient été en contact direct avec toutes ces personnalités.
Alors revenons à Madame de Staël. Il était plutôt rare à l'époque qu'une femme soit fondatrice d'un groupe de réflexion philosophique et politique.
Oui, évidemment, il n'était pas rare qu'une femme écrive.
Là, rappelons que Madame de Staël donc était écrivaine.
Voilà. Donc il n'était pas rare du tout de voir qu'une femme publie des nouvelles, publie des romans, s'essaye même au théâtre. Mais quand elle se mêle d'abord de critiques littéraires en publiant le premier de ses ouvrages, qui sont les lettres sur Jean-Jacques Rousseau. Et puis ensuite, quand elle va se mêler de philosophie en écrivant son livre sur les passions. Quand elle va s'occuper, dans un ouvrage absolument magistral qui paraît exactement en 1800, quand elle va s'occuper de réfléchir sur la littérature comme phénomène social, dans cet ouvrage qui s'intitule « De la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales » et fonder ainsi, en quelque sorte, inaugurer la vague ou la perspective, disons, d'études qu'on appellera beaucoup plus tard sociologique, eh bien, quand elle fait tout ça, et qu'elle va encore se mêler d'écrire des ouvrages à dimension historique, comme les considérations sur la Révolution française, eh bien, quand elle fait tout ça, elle fait ce qui n'est pas habituel pour une femme et qui est extrêmement mal perçu. Et le fait de se mêler de politique, de philosophie et d'histoire va naturellement très vite attirer à Germaine de Staël toutes sortes de soupçons, toutes sortes même d'attaques, parfois très violentes, des attaques qui vont se poursuivre encore très longtemps après sa mort. Et je vous dirais même que encore aujourd'hui, il y a encore en circulation un lieu commun, un cliché de cette Germaine de Staël un peu bas-bleue, un peu intellectuelle, prétentieuse et à verser plutôt dans la catégorie des amateurs que des esprits à prendre très au sérieux.
Je vous propose, Monsieur Rosset, de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'olivier, Platon et le platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce, dans l'émission Focus sur Canal Académie.
Monsieur Rosset, qu'est-ce qui se dégage de toutes ces rencontres du groupe de Copé ?
Évidemment, beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que pour répondre à cette question, le mieux serait de préciser que parmi les très nombreux ouvrages qui ont été publiés par des auteurs directement liés au groupe de Copé, il y a des ouvrages qui relèvent de ce qu'on peut appeler les belles lettres. Des pièces de théâtre, de la poésie, mais aussi, bien sûr, des nouvelles, des romans, dont certains extrêmement importants, puisque certains d'entre eux sont vraiment les œuvres absolument centrales de cette période, comme par exemple Corinne de Germaine de Staël ou Adolphe de Benjamin Constant. Donc il y a toute la dimension belles-lettres, la dimension qui fait qu'on parle de ces individus comme d'écrivains. Mais il y a bien sûr une énorme littérature à caractère politique, qui est aussi bien liée à ce qu'on pourrait appeler la théorie politique que à des réflexions, à des commentaires sur l'actualité de ce temps qui évidemment mérite ou suscite sans cesse des réactions extrêmement profondes. Il y a par ailleurs tout un volet qu'on va globalement qualifier d'historique. Mais il ne s'agit pas de faire de l'histoire événementielle, il s'agit de penser l'histoire. Et cette façon de penser l'histoire, eh bien, elle est pratiquée à partir de différents sujets. Par exemple, dans le fameux traité dont j'ai parlé tout à l'heure, le fameux essai de la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales, eh bien, il y a naturellement toute une très grande dimension historique. Sismondi est l'auteur d'un énorme ouvrage sur l'histoire des littératures du Midi de l'Europe. Il y a donc toute une dimension, je dirais, d'histoire littéraire, mais il y a aussi des ouvrages et des traités, Sismondi encore, Barante d'un autre côté, des traités qui parlent de l'histoire de certaines formes de gouvernement. Bonstetten va donner des essais sur l'histoire de la Terre, qui est aussi un sujet extrêmement disons vivant à cette époque-là et renouvelé par toutes sortes de propositions inédites. Et Enfin, on va parler, pour souligner son importance, d'un ouvrage qui est très très significatif, auquel Benjamin Constant a travaillé pendant plus de 40 ans, et qui va aboutir finalement, avec une publication partiellement posthume, Constant meurt en 1830, et le premier volume de cet immense ouvrage qui s'intitule « De la religion » paraît juste en 1829, et les volumes suivants paraîtront plus tard. Et donc dans cet énorme ouvrage « De la religion », Constant conduit une enquête extrêmement minutieuse, très profonde, très riche, à dimension qu'on qualifierait aujourd'hui peut-être plutôt d'anthropologie des religions, où il ne s'agit évidemment nullement de s'intéresser à l'histoire des théologies ou à l'histoire des institutions religieuses. Donc vous voyez, quand on a fait le tour un petit peu de toutes ces thématiques, on se rend compte que quand Constant, le même Constant, a pu dire à la fin de sa vie « j'ai défendu pendant 40 ans le même principe, liberté en tout », eh bien on comprend que ce concept de liberté, il va être pensé dans toutes ses dimensions, toutes les dimensions que j'ai évoquées à l'instant, et pas seulement dans la dimension immédiatement politique, dans cette réflexion qui est absolument centrale dans le groupe de Coppet et que l'on peut, de façon très sommaire, résumer en disant qu'elle touche toute la complexité des rapports entre les individus auxquels on accorde désormais un statut très important et les communautés humaines dans lesquelles ces individus sont appelés à fonctionner. Et le rapport très difficile, très problématique entre ces individus et ces communautés va faire peut-être, va constituer le cœur de la réflexion de ces auteurs. Et puis un autre sujet qui est évidemment corollaire à tout cela et qui rend le groupe de Coppet ou la pensée du groupe de Coppet tellement intéressante, vivante et actuelle, c'est évidemment toute la conception de l'Europe qui s'y est dégagée. Une conception qui est aux antipodes à la fois de la grande vision des philosophes des Lumières de l'universalisme et d'une espèce de grande vision, disons, globale d'une Europe qui reposerait sur des valeurs universelles et qui se définirait de façon suffisante à travers ces valeurs, et une conception qui va aussi à l'encontre d'un autre mode d'uniformisation de l'Europe, tout à fait différent évidemment de celui des philosophes des Lumières, qui est celui de Napoléon. Et le groupe de Coppet va donc développer une pensée de l'Europe qui sera beaucoup plus différenciée, qui va privilégier la construction, certes difficile, mais nécessaire, de relations entre des entités qui sont très différentes et qui sont justement riches de leurs différences.
C'est ce qui alimente le contenu de ce groupe de Coppet. En quoi et comment peut-on rassembler des personnalités aussi diverses du point de vue idéologique, religieux, politique ?
Eh bien, d'abord, en évitant de faire ce qu'on fait tant de groupes, c'est-à-dire en évitant de fermer ce groupe à travers des discours péremptoires, des manifestes, des principes, des déclarations, bref, n'évitant tout ce qui relèvera d'une idéologie. Et c'est certainement le caractère le plus intéressant sur le plan d'une étude, disons, de sociabilité intellectuelle de ce groupe, mais en même temps, évidemment, une dimension qui rend la saisie de ce groupe tellement difficile.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'exil qui donne à ce salon parisien une importance internationale, selon vous ?
D'ailleurs, peut-être, on peut le dire. On peut dire que le groupe de Coppet, comme nous l'avons déjà évoqué, a été le résultat, d'une part, d'un conditionnement, disons, géoculturel tout à fait particulier, et puis d'autre part, évidemment, de circonstances historiques, elles aussi très particulières, avec, dans ces deux contextes, géographique et historique, la rencontre absolument rare, inattendue, peut-être même miraculeuse, d'esprit aussi vif et aussi riche. Alors, bien sûr que la situation de ces gens, qui est une situation de résistance.
Est-ce qu'ils sont tous en exil ?
Non, ils ne sont pas tous en exil, du moins pas formellement. C'est bien sûr seulement Germaine de Staël qui est formellement en exil, mais évidemment que la police de Napoléon est très proche. Elle surveille de près Coppée, toute la correspondance est surveillée, et il est tout à fait malvenu pour un citoyen de la France de se rendre sans précaution à Coppée. Si bien que les personnes qui entretiennent des relations avec Germaine de Staël vont très rapidement en sentir les effets.
Prennent un risque.
Oui, bien sûr.
Est-ce que ce salon a véritablement une importance internationale ?
Alors, salon, est-ce qu'on peut parler d'un salon ? Évidemment, c'est une question très compliquée.
C'est le seul salon parisien à l'étranger à l'époque.
Peut-être, mais en même temps, c'est un salon d'un nouveau type. Et évidemment qu'on ne peut plus parler de Coppée comme d'un salon tel que celui qu'animait par exemple la mère de Germaine de Staël. Le temps des grands salons aristocratiques, ou pas nécessairement, pas exclusivement aristocratiques, mais enfin le temps des grands salons de l'Ancien Régime est définitivement terminé. Et le groupe de Coppée va effectivement faire la transition ou marquer le passage de ce modèle d'un type ancien vers quelque chose qui se met en place dans les années de la Révolution, le club politique, des réunions à caractère beaucoup plus, disons, liées à l'actualité, qu'obéissant, comme les salons, à un rituel hebdomadaire et à une tranquillité à la fois de modèles de fonctionnement et d'idées qui y sont débattues, comme c'était le cas dans les salons de l'Ancien Régime. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très enthousiaste à l'idée d'utiliser ce vieux concept de salon, très riche, très, très complexe, pour le groupe de Coppée. Je pense que justement, une des choses qui caractérise le groupe de Coppée, c'est qu'il dépasse, il renouvelle le modèle du salon.
Que devient le groupe de Coppée à la mort de Madame de Staël ?
Alors à la mort de Madame de Staël, le groupe de Coppée va survivre principalement à travers les ouvrages et les prises de position qui seront celles de ses membres. Le groupe ne va plus avoir de lieu de ralliement. Les gens, même ceux qui en constituaient le noyau, vont continuer à entretenir des relations, mais le plus souvent par la correspondance. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est le fait que, après la mort de Madame de Staël, et même bien après, et à vrai dire au XXe siècle, le groupe de Coppée a connu une renaissance, mais cette fois-ci comme objet d'étude. Et aujourd'hui, les travaux sur ce groupe sont très nombreux dans le monde entier, et on peut dire que cet objet tellement central, tellement important de notre histoire culturelle, pas seulement française, mais européenne, cet objet s'est vraiment constitué en un champ de réflexion et d'étude très, très vivant, et d'autant plus vivant justement qu'on y trouve tant de leçons utiles pour le monde d'aujourd'hui.
Monsieur Rosset, merci. Comment, avant de terminer cette émission, comment fait-on pour en savoir plus ? Vous avez écrit un livre donc en collaboration avec Monsieur Hoffmann de l'Institut Benjamin Constant à Lausanne qui s'intitule « Le groupe de Coppée ».
Oui,
donc,
c'est ça.
C'est en quelle année ?
Alors, c'est un livre qui a paru en 2005 et qui a été publié par les presses polytechniques et universitaires romandes à Lausanne.
D'accord, donc on peut encore se le procurer.
Oui, on peut se le procurer, mais il y a évidemment aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses que l'on peut faire pour s'informer. Il y a des articles d'encyclopédie, il y a le site internet de la Société des études staliennes, il y a deux revues très régulières et très riches que sont les Annales Benjamin Constant et les Cahiers staliens. Il y a quantité d'activités qui sont proposées par la Société des études staliennes d'un côté, l'Association Benjamin Constant de l'autre, notamment de très grands colloques internationaux qui ont lieu très régulièrement, tous les 4 ou 5 ans, et qui en sont déjà à leur 8e édition.
Merci beaucoup, Monsieur Rosset, pour avoir accepté notre invitation et pour nous avoir parlé du groupe de Coppée, de Madame de Staël. Je précise que vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission à votre guise sur notre site canalacademy.com.